On m'a aussi appelé BAP, j'explique, bouche à pipe, parce que j'ai des lèvres assez grandes, quoi. À l'adolescence, des remarques très fines de la cour d'école. Ce qui m'a dérangée de mon anatomie en lien avec mes origines africaines, c'est un peu ce qu'on lie à la vie sexuelle et aux attributs sexuels des Africains, ouais.
Bienvenue dans Brise-glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand on grandit en Suisse, dans un petit village très, très blanc, comment vivre sa négritude? Comment s'accepter soi-même? Odile, elle a 32 ans, et elle vit au quotidien une forme de racisme ordinaire dans une société inconsciente de sa blanchité. Une société d'ailleurs souvent convaincue que les discriminations appartiennent au passé. Elle nous parle des petites remarques, des regards et des insultes, du bac à sable à la machine à café, qui ont façonné son identité et aussi son rapport au corps.
Alors mon papa est d'ici, il est suisse et blanc. Ma maman est du Rwanda, elle est suissesse et noire. Et j'ai une sœur adoptive qui est rwandaise aussi. Donc noire et moi je suis la métisse. Il y a une espèce de dégradé familial.
À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de votre couleur de peau?
Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est au retour... mes parents et moi, on habitait en Afrique de l'Ouest quand j'étais toute petite. Et puis, c'est en arrivant dans un environnement qui était majoritairement blanc, en fait. Les choses se sont inversées. Mon père était blanc, il était parmi les seuls en Afrique de l'Ouest. Et puis, les proportions se sont inversées. Puis là, il y a eu toute la problématique de l'école, puis la prise de conscience d'une différence, quoi. J'avais, je pense, entre 4 et 5 ans. J'ai commencé une année plus tard. Mes parents se sont dit, on va reprendre à la première, anciennement, première enfantine pour me laisser le temps d'atterrir, en fait. Donc, j'étais dans les plus âgés de ma classe. Donc, ouais, 5 ans, quelque chose comme ça. C'était assez brutal, dans le sens où, assez vite, il y a eu pas mal de moqueries à l'école, en fait, voire d'insultes. C'est assez dans mon caractère de m'adapter et de correspondre. Et puis, ça ne fonctionnait pas du tout, parce que je ne peux pas compenser ça, corriger ça aux yeux des enfants à ce moment-là. C'était un piège, quoi. On était dans le village, deux enfants métis, un ami qui venait du Brésil, et puis moi. Et il y avait clairement à l'école ceux qui se moquaient ou qui pouvaient être assez trash. Et puis ceux qui nous défendaient corps et âme. Chez les tout-petits, déjà, il y avait ce truc. J'ai des souvenirs de copines hurlant sur des copains d'école. Mais c'est pas juste, c'est pas leur faute. Il y avait les deux. Il n'y avait pas que l'agressivité. Il y avait aussi les militants précoces.
C'était quel genre de remarques ou d'insultes?
Bon, c'était soit « je veux pas m'asseoir à côté de toi », ça allait jusqu'à « sale négresse, rentre chez toi ». Se moquer des cheveux, enfin, c'était assez large comme spectre. Mais j'ai l'impression que certaines expressions qui me sont restées, elles ne pouvaient pas venir des enfants. C'est des choses qu'ils avaient entendues, parce que c'est des « sale négresse, rentre chez toi » chez un enfant de 7 ans, c'est pas spontané, quoi. Il a dû l'entendre et le revéhiculer plus loin, quoi. J'étais blessée, vraiment. Mais en même temps, j'étais blessée et fâchée contre eux, mais j'avais tellement envie de leur plaire au même. Enfin, c'était assez paradoxal, quoi. Enfin, ça ne me détachait pas de la volonté de leur plaire. Ça a été jusqu'à un jour où j'ai dit à ma maman, et ça l'a marqué, bien sûr, que j'aimerais tellement devenir blanche. C'est assez rigolo, parce que le dire à ma maman, qui est le parent noir des deux, pour moi, c'était un problème que je rencontrais à l'école et dans ma vie sociale, mais au fond, je ne voyais même pas que j'étais en train de le dire aux parents noirs de mes deux parents. Ce qui a dû être assez choquant pour elle, mais c'était aussi la réalité, en fait. J'avais envie d'être comme les autres, puis qu'on arrête de m'embêter avec ça, quoi.
Est-ce que vous avez souvenir d'une réaction des professeurs ou des adultes autour de vous?
Oh oui. Mes parents étaient assez marqués par une enseignante. En plus, je ne l'aimais pas trop, donc ça correspond, enfin... En l'occurrence, elle a vraiment fait une maladresse grave. Pour mes parents, ça les a choqués. Ils ont été lui en parler au bout d'un moment et dire « Oui, mais vous entendez ce qui se passe? Peut-être que ce n'est pas quand vous êtes présente. Donc, si vous n'avez pas entendu, on vous le dit. Il y a des choses qui se disent. Et puis, notre fille n'est pas la seule visée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'ensemble, on peut sensibiliser les enfants, les parents, en parler, quoi ?» Et elle a dit « Ah non, j'ai jamais entendu ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, parce que votre fille, elle est si jolie. » Et voilà, c'est toute la réaction qu'elle a apportée à ça, quoi. Mais mes parents se sont dit, bon, bah, avec ça, on pourra pas faire grand-chose. Puis eux ont été parler à des parents du village, eux ont essayé d'en discuter entre adultes, mais avec l'enseignante, ça n'a pas été possible à ce moment-là.
Comment est-ce que ce sentiment de vouloir devenir blanche à tout prix a évolué au fil de votre adolescence ou...
Alors, assez vite, c'était pas devenir blanche, c'était plus ça. J'ai quelques souvenirs, et je pense qu'il y en a eu plus que ceux dont je me souviens, des discussions avec mes parents, où finalement, eux, ils se sont dit, bon, ben, nous, il faut qu'on renforce chez elles, qu'on parle du fait que la multiculturalité, nous, en tant que famille, on le voit comme une richesse, qu'ils avaient envie de m'offrir quelque chose et pas de me pénaliser, que ça a été des discussions qu'on a pu avoir. Donc, ce besoin d'être blanche, il est parti assez vite. Après, il y a plein de choses qui sont restées. Le rêve d'avoir des cheveux longs et raides. Et plein de choses qui sont annexes, qui sont pas « je veux changer de couleur de peau », mais qui collent pas très bien à ce que je suis, en fait, à la base. Ça reste assez longtemps, puis c'est pas très conscient. Je me suis pas dit « je veux avoir des cheveux longs et raides parce que je veux être blanche », mais parce que je trouvais ça plus beau et parce que c'est plus courant, quand même, que les cheveux crépus. En tout cas, à ce moment-là, dans mon adolescence, à la campagne, on était quelques-uns, mais vraiment minoritaires.
Est-ce qu'il y a des points de votre physique en particulier qui vous faisaient complexer ?
Le fait d'avoir des fesses dites d'africaines, ça a été assez vite conscientisé chez moi. Déjà, j'ai pas mal complexé parce que j'aurais préféré être de manière globale plus fine, comme souvent. Mais du coup, avoir des fesses d'africaines, c'était un point qui m'embêtait. Trop grosse et ouais, quand même trop caricaturalement bâtie comme une africaine, quoi.
Est-ce qu'on vous l'a fait remarquer ?
Oui.
Très jeune ou pas ?
Bof, ado, je pense que c'est des choses qui ont pu se dire. Comme beaucoup d'ados, j'avais envie de maigrir. Mais mes fesses m'ont posé problème au moment où ça a eu une connotation, le cul d'africaine, quoi. Enfin, on est dans le cliché, mais tigresse, sauvage, donc sexuelle. C'est ça qui a commencé à me déranger. On m'a aussi appelé BAP, j'explique, bouche à pipe. Parce que j'ai des lèvres assez grandes, quoi. À l'adolescence, des remarques très fines de la cour d'école. Ce qui m'a dérangée de mon anatomie en lien avec mes origines africaines, c'est un peu ce que chez une femme, hein, parce qu'il y a aussi des clichés chez un homme, mais ce qu'on lie à la vie sexuelle et aux attributs sexuels des Africains, ouais. Ça m'a mis mal à l'aise, ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes filles africaines sont sexualisées plus tôt que les blanches ?
Mais je pense quand même, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir des copines qui avaient des surnoms aussi explicites que celui-là. Après, il y avait plein d'histoires, hein, les ados. Je veux pas caricaturer non plus et me victimiser non plus, mais ce surnom-là, à ce point, justifié par aucun comportement, ce genre de surnom, il n'y en avait pas autour de moi.
Est-ce qu'on peut dissocier ça, à votre avis, de l'héritage colonial ?
Je suis pas pointue sur le sujet, mais je pense qu'on peut rien dissocier entre l'histoire et où on en est maintenant, et nos réflexes à tous, les miens aussi. On baigne dans une histoire et dans une culture, dans des histoires et dans des cultures, mais et du coup, forcément que l'image qu'on a pu véhiculer dans les premiers rapports anthropologiques ou autres, elle a la vie dure, ouais, elle reste un bout. Les attributs sexuels féminins noirs ou métis, parce que mon vécu, c'est que c'est parfaitement la même chose. Je suis d'abord noire, et puis après on se dit, ah oui, mais bon, alors si t'as un père blanc, t'es métis. Je pense aux hommes et au grand mythe du sexe masculin chez les noirs, quoi. C'est très impressionnant d'avoir encore cette image maintenant, quoi. Je trouve dur.
Et quand plus tard vous avez grandi et que vous étiez confrontée à ces remarques sexistes et racistes, qu'est-ce que vous faisiez pour vous défouler ? Est-ce que vous avez le souvenir d'échappatoire quelque part ?
Pas particulièrement. Moi, j'ai l'impression, peut-être que d'autres ne le vivent pas comme moi, hein, mais qu'on ne fait pas grand-chose, en fait. On prend, on emmagasine, puis on ne peut pas en faire grand-chose. Souvent, quand on râle, c'est minimisé ou ça crée un conflit. Enfin, il n'y a pas beaucoup de manières de le faire ressortir.
L'humour, apparemment.
Je pense. d'en rire, voire d'être provocateur, notamment avec des amis ou autres. Mais il y a des limites, il y a des moments où ça passe moins bien. Et puis, il y a aussi des moments où ça sert à cacher que ça a fait plus mal que ça. Mais bof, si j'en ris, ça passe. Et puis, ça veut pas dire qu'il faut pas en rire. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ça cache peut-être aussi quelque chose.
Ouais, l'humour, ça peut être une défense.
Oui. Bon, y a des réactions très frontales. La dernière en date, j'étais avec une amie dans une cabine d'essayage, en faisant du shopping. Un monsieur qui accompagnait sa compagne essayait des trucs et qui était visiblement déjà exaspéré nous attendait. Puis on avait une cabine chacune, dans un magasin où il y a deux étages, donc d'autres cabines à l'autre étage. Et nous voyant nous montrer nos affaires, il a commencé à s'impatienter. Et puis on lui a dit non, mais nous on n'est pas pressés, il y a d'autres cabines. Et puis on est dans un moment de plaisir. Ça fait 5 minutes qu'on est là, on n'est pas en train d'exagérer, on n'a pas besoin de se dépêcher, non. Et à un moment donné, il me regarde moi très précisément. Et il dit, ouais ben, vous, c'est sûr que vous n'êtes sûrement pas pressés. Et puis d'ailleurs, vous ne devez pas savoir ce que c'est d'être à l'heure tous les matins pour aller bosser ou un truc comme ça. Et bien sûr que je l'ai reçu, la remarque, mais il n'avait rien dit de strictement raciste. Moi, ça m'a violentée, mais j'ai vu chez mon amie une réaction extrêmement viscérale, quoi. Elle était, mais... Elle ne vivant pas ça souvent, d'être dans la situation, apparemment, ça l'a touchée. Et après, on a été en discuter, on a été se poser sur une terrasse et puis passer à autre chose. Mais elle lui a répondu de manière assez vive et... De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, mais elle a tenté. C'était le dernier souvenir aussi parlant. Après, la plupart des choses, c'est des petites choses. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans la surprise de voir arriver quelqu'un qui porte un nom qui n'est pas connoté. Et puis que la personne, mais parfaitement innocemment, se retrouve face à quelqu'un qu'elle n'avait pas imaginé métisse. Et puis... cette espèce de truc, ça peut être trompeur. Mon nom et mon nom de famille qui ne sont pas africains, quoi. En l'occurrence, ça m'a pas forcément toujours dérangé, mais je le remarque, ça me fait sourire. Je pense qu'on est assez formé à relativiser et à diminuer le truc. Mais à l'inverse, quand on est réaliste sur ce que les choses peuvent nous faire ressentir, souvent c'est les autres qui nous demandent de relativiser. Donc finalement, ben, je crois qu'il faut relativiser, tant que c'est comme ça. Alors, dire les choses, et par exemple, dire là ce qui nous dérange, et puis parler de ses expériences, c'est une chose. Mais dans les situations, si on prend tout à l'échelle où ça devrait éthiquement être pris, c'est pas possible. On n'a pas la réponse en face qui nous fera du bien.
Dans quelle situation est-ce que vous avez ressenti que, justement, votre souffrance face au racisme était minimisée, diminuée ?
Dans des situations de blagues, notamment de blagues entre amis. Honnêtement, je suis pas sûre qu'on est obligé d'être toujours dans le politiquement correct absolu, enfin voilà. Mais au moment où, soit parce que le nombre, soit parce que la blague est déplacée, soit parce que le nombre de blagues est trop important, soit parce que c'est déplacé, et puis qu'on dit que ça nous dérange, la réaction, ça peut très facilement être « Oh, mais bon, mais t'as pas d'humour, faut relativiser.
» On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Enfin, je comprends quelque part que tout d'un coup, ce soit un peu insupportable d'être coincé, de se dire « Ouh, là, j'ai commis un impair, donc c'est plus facile de minimiser. » Mais donc, au fond, soit on dit rien, soit on est prêt à avoir le débat derrière et puis à argumenter, quoi.
Quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois ?
Bah, c'était une soirée où il y avait beaucoup de blagues, et pas que là-dessus, mais je trouvais que la proportion de blagues... sur la négritude, était trop élevée. Puis quand je l'ai signalé, ça a un peu fâché l'auteur de la dernière blague. Et puis on est très vite considéré comme susceptible. Mais je pense que c'est aussi minimisé par, je pense, tous les Noirs et Métis que je connais. Pas à tous les moments. Il y a des moments pour en parler, puis là, il y a une mobilisation assez forte. Puis il y a plein de moments où, en fait, on ne se rend pas compte qu'on diminue le truc complètement.
Est-ce que vous faites aussi la différence entre le racisme clairement injurieux et irrespectueux et une forme de racisme un peu bienveillant, comme on a pu en parler dans la presse, de commentaires qui ne se veulent pas racistes et qui en aucun cas n'ont conscience de leur caractère raciste et qui pourtant le sont ?
Oui, des personnes plus âgées avec un autre rapport peut-être aux Noirs ou à d'autres cultures... Avec même des compliments physiques un peu « Oh, mais c'est tellement joli tes petites bouclettes » et je sais pas quoi. Mais vraiment, qui sont pensés, mais où on sent que quelque part, ils sont si mignons. Ils sont si jolis quelque part, il y a un côté un petit peu paternaliste et autre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tout ce qui est du domaine musical ou de la danse, quoi. Ah, mais tu danses bien, mais c'est normal. Et je caricature un peu. Soit vous avez ça dans le sang, soit vous apprenez depuis tout petit. Des choses comme ça, ouais, qui sont vraiment autour du compliment, quoi. Très bien intentionné, super maladroit.
Vous leur dites?
Ça dépend à qui. Moi, je pense que je vais forcément être beaucoup plus tolérante si c'est quelqu'un de plus âgé, si l'idée aussi, c'est de se rencontrer, puis de préserver le lien, puis de toute façon, on ne va pas révolutionner tout le monde et n'importe qui. Franchement, mes potes, oui, je leur dis. Mais il y a des gens que je blesserais aussi, inutilement, parce que ça ne va pas forcément changer la conception qu'ils ont des choses. C'est juste qu'ils seraient tristes qu'on soit fâchés et que ça ne servirait à rien.
Est-ce qu'à travers, je ne sais pas, la littérature, par exemple, vous avez construit une réflexion autour du racisme?
Je me rappelle peu, parce que ça fait longtemps, mais du livre « Les identités meurtrières » de Malouf, qui m'avait quand même touchée. Après, oui, je suppose, mais des choses que j'ai gardées comme piliers, c'est plutôt du domaine de la musique et du domaine de la revalorisation d'une certaine fierté d'être noire ou métisse, et quelque part un sentiment d'appartenance qui est très international, parce que ça peut être de la musique africaine, ça peut être de la musique nord-américaine, dans les grands courants, après il y a plein de choses qui existent. Au fond, la fierté de ma culture occidentale, elle est là, elle est quelque part acquise. Et puis il y a eu des choses qui ont, et c'est pas mal passé par la musique, qui ont revalorisé ma fierté, l'autre appartenance, l'appartenance noire.
Vous avez l'impression que c'est une part importante de votre identité, même si vous avez finalement vécu en Suisse toute votre vie, puisque vous êtes arrivée relativement tôt.
Ouais. Le fait d'être noire à proprement parler, oui, dans le sens où c'est aussi des choses qui m'ont obligée à apprendre à me défendre, à apprendre jusqu'où je veux me défendre et à partir de quel moment en fait je perds mon énergie, etc. Ça a formé une partie de mon caractère. Mais ce qui est important, c'est aussi plus... les souvenirs familiaux en lien avec l'Afrique, c'est l'identité culturelle. Honnêtement, la plupart du temps, j'oublie que je suis métisse. Enfin, c'est pas quelque chose que je vis de manière permanente. Je suis dans un pays que je connais, avec un emploi, des amis, une vie normale. Il y a plein d'instants où ça ne m'habite pas du tout. Donc oui, ça m'a formée, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est l'appartenance culturelle. Et j'y pense plus qu'à mon allure. Et tout d'un coup, je me dis, ah ben oui, c'est vrai. Enfin, ça surgit, il y a des petites surprises, parfois.
Il y a eu un débat récemment au sujet de l'emploi des mots noir, black. Où est-ce que vous vous positionnez, vous, par rapport à ça?
Moi, je pense qu'on peut dire noir et puis c'est tout. Après, je ne vais pas jusqu'à être outrée, vexée parce qu'on dit black ou parce qu'on a envie d'être précautionneux. Je pense qu'on n'est pas tous dans le même niveau de réflexion par rapport à ce genre de choses. Puis on ne peut pas se rentrer dedans pour tous les détails tout le temps. Après, sur le débat, dire à quelqu'un, mais tu sais, arrête avec black, parce que ici, là, maintenant, on parle français, ça n'a pas de lien, et puis tu peux dire les choses. Oui, dans une discussion, mais quelqu'un qui me dit, ouais, mais parce que t'es black, je ne vais pas relever systématiquement, ça devient invivable, quoi. Enfin, qu'on puisse vivre ensemble tranquillement aussi.
Alors, qu'est-ce que vous diriez justement à tous ces gens, quelle que soit leur couleur de peau, qui ont toujours peur de faire des faux pas, de faire des gaffes, d'avoir l'air raciste sans l'être, que ce soit par l'emploi du mauvais terme, du mauvais mot, du mauvais commentaire, qu'est-ce qu'on leur dit?
D'une part, que poser la question, c'est jamais grave. Ouais, mais toi, par exemple, est-ce que ça te dérange si je te dis ça, ou est-ce que tu te sens visée? Moi, ça, personnellement, ça ne me dérange pas d'y répondre. Une question ne me choque pas. Et puis de se détendre, quoi. Dans le sens où, oui, il y a des choses dont on est inconscient, puis quand ça sort, si l'autre le fait remarquer, bah, l'entendre et pas minimiser, c'est une chose. Mais je crois pas que nous, on soit tout le temps axé sur l'évaluation de est-ce que c'était ou non raciste. Ou, enfin, pas avoir peur de nous, quoi. Qu'on leur saute à la gorge.
Alors, donc vous avez 32 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que le racisme que vous avez vécu a évolué sur ces trois décennies?
Je pense que oui. Il y a une réalité qui a l'air assez claire. C'est le nombre de mélanges et de multiculturalités qui existent. Et puis, je pense, notamment dans les régions campagnardes que j'ai connues, on était deux dans ces années-là on était très peu, en fait. On pouvait se compter. Maintenant, le fait que ce soit plus courant et que les enfants se côtoient plus vite et que ce ne soit pas des personnes exceptions, je pense que ça relativise quand même vraiment. C'est plus pointer du doigt une ou deux personnes, donc ça annule certains comportements. Je pense que ça existe toujours, mais... Si, quand même, il y a une évolution. Il y a aussi une évolution dans ce qu'on peut acheter, dans nos vécus de nos corps. Je pense à des produits spécialisés pour les cheveux, à du maquillage. Trouver du fond de teint jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on n'était pas dans le spectre plus clair, c'était difficile. Puis maintenant, franchement, il y a une offre. Et c'est des choses qui passent par l'esthétique, qui passent par des choses qui ne sont pas vitales, mais qui font qu'on existe. Et du coup, je pense que ça diminue le choc. On n'est plus si exceptionnel et différent, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos enfants ?
Justement, que ce ne soit pas une tension, mais que ce soit une source de découverte de toutes les cultures. Et je pense que ça se passe. Il y a plein de manifestations scolaires, parascolaires, des crèches ou autres qui proposent des moments de partage. Et puis, c'est des moments où finalement, les parents peuvent échanger ensemble ou où on peut se connaître. Mais alors, la société n'est pas du tout idéale, mais il y a des lieux où soit ce n'est pas... important sur le moment, soit dans les moments où la culture de l'autre et l'origine est importante, et où se valoriser, partager. J'ai aussi plein d'expériences positives de partage là-dessus.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch/podcast ou sur iTunes, Deezer ou SoundCloud. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Si vous aimez Brise-Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours!